Chapitre 49. Le rugissement bestial est de plus en plus violent, de plus en plus proche. Henri et Vincent en ont les tympans déchirés. Le clou a plaqué ses mains sur ses oreilles pour s'en protéger, mais cela ne diminue pas sa terreur pour autant. Ses jambes le portent à peine. Juste devant lui, Cavel lutte pour rester debout face au puissant courant d'air. Il lui est pénible de garder les yeux ouverts, tant ils sont vite desséchés par le flux. Il fait écran de son corps pour protéger la lampe du mieux qu'il le peut. Si celle-ci venait à s'éteindre, il se retrouverait plongé dans les ténèbres. Quelle sorte d'abomination peut produire un hurlement aussi épouvantable? Les réponses n'appartiennent pas au monde connu. Henri imagine une créature échappée de la mythologie, ou un dragon tiré de son sommeil. Il en frémit, son esprit s'emballe. Il entrevoit déjà un minotaure furieux de voir son antre envahi. Vincent s'attend lui aussi au pire. Il sait déjà que, quoi que ce soit, son couteau ne pourra rien contre. Il scrute le tunnel, épouvanté par ce qui risque d'y surgir. Si c'était encore faisable, il rebrousserait chemin sans hésiter. Même le pire des assassins lui ferait moins peur que ce beuglement préhistorique. Henri se laisse tomber à genoux. Le vent glacé et la terreur lui vrillent le corps. Il se met à crier, mais le hurlement de la bête couvre sa détresse. Découvrant à quel point il est pétrifié, Vincent s'accroupit devant lui. Il est prêt à faire rempart de son corps pour que le garçon ait une chance de survivre. Tant pis s'il doit se faire dévorer pour cela. En attendant, la bête se maintient à bonne distance. Sa colère ne forcit plus. Le monstre semble camper sur sa position. Il est certainement tapis, au-delà du virage que prend le tunnel. Est-il trop massif pour s'introduire dans l'étroit boyau? Serait-il retenu par une grille ou des fers? Son déchaînement s'atténue progressivement en mugissement. Vincent décide alors de tenter d'avancer pour évaluer la menace. Il risque quelques pas prudents, plaqué contre la paroi de calcaire, le souffle court, se demandant si la créature perçoit son odeur ou si elle va réagir à la lueur de sa lampe. Henri est resté derrière, prostré au sol, blotti contre la pierre, claquant des dents. Alors que Vincent progresse lentement, il lui semble que la bête recule d'autant. Voyant la lumière de son complice s'éloigner, Henri pressent qu'il va bientôt se retrouver seul dans l'obscurité. Dans un sursaut, il se relève et rattrape son aîné en s'accrochant à sa veste. Tous les sens de Vincent sont en alerte. Il évalue chaque paramètre de cet environnement hostile. Rien ne lui échappe, ni les légères variations de la forme du tunnel, ni la pente ou l'adhérence du sol. La présence d'éléments suspects pourrait annoncer des pièges. Le monstre ne charge pas. C'est de plus en plus intrigant. Vincent n'entend pas les raclements de pattes griffues qui chercherait à se frayer un chemin, pas plus que le sifflement d'une gigantesque langue bifide. Les hurlements se sont mués en feulements. Ils évoluent sans discontinuer, parfois plus lointains, parfois tout proches, sans qu'il ne se passe rien d'autre. Devant Vincent, le couloir entame une seconde courbe, plus marquée que la précédente. Inspirant à fond pour se donner du courage, Cavel dépasse le virage et s'immobilise. À quelques mètres devant lui, dans la clarté de sa lampe de moins en moins malmenée, de longues stries verticales balafrent le flanc du tunnel. La violence du courant d'air faiblit. Il hasarde prudemment un pied en avant. La lampe fait reculer la pénombre et lui permet bientôt de mieux appréhender les hautes entailles dans la paroi, semblables à d'étroites meurtrières. Vincent en dénombre pas moins d'une demi-douzaine. Henri tente de le retenir par son vêtement. « N'y va pas, c'est sûrement un traquenard !» Le souffle glacial s'est presque dissipé, et le hurlement à la mort n'est plus qu'un lointain chouinement. La bête aurait-elle fui ? Arrivé à la hauteur des ouvertures, Vincent ne sent plus qu'un léger souffle sur son visage. C'est par ces curieuses failles, que ce qui reste du courant d'air pénètre encore dans le tunnel. Levant la lampe pour mieux voir, il distingue à l'intérieur des fentes d'étranges lamelles de métal disposées en biais en des tubes suspendus. De dimensions différentes, tous sont réalisés dans un alliage qui ressemble à du cuivre couvert d'oxyde verdâtre. La façon dont sont taillées les bouches d'air interpelle Vincent, qui commence à saisir ce qui s'est joué. Car après tout, ils n'ont fait qu'entendre le monstre. Il fait signe à Henri, qui claque toujours des dents, de s'approcher. « Regarde, je commence à croire que la bête n'était qu'une illusion. » Il lui montre les fentes taillées en sifflets, les plaques et les tubes. Le courant d'air passé au filtre de ces ingénieux instruments à vent donnait sa voix au monstre. Ses lamelles suspendues sont sans doute des sortes d'anches. Notre imagination a fait le reste. Il n'y a pas de dragon, hormis dans nos têtes. Juste un son de l'air qui, en passant dans ses ouvertures, se transforme en différentes notes qui se mélangent. Pourquoi ça s'est arrêté ? Vincent jette un coup d'œil en arrière. Sans doute parce que le passage s'est refermé. Son ouverture doit amorcer un appel d'air qui déclenche le phénomène. Le tunnel agit comme une flûte géante, produisant son effrayante musique. Plutôt malin pour terrifier les importuns. Le gamin rit nerveusement et ose passer la main dans une fente pour toucher un tube suspendu. Il voulait nous flanquer la trouille. Ils ont réussi leur coup. Reste à savoir qui ils sont. Allez, viens, nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Chapitre 50. L'un derrière l'autre, les deux visiteurs poursuivent leur périple souterrain depuis déjà un moment. Au terme de chaque nouvelle courbe du tunnel, ils espèrent découvrir enfin une voie d'accès vers la surface. Mais pour le moment, le boyau serpente sans proposer d'autre possibilité que d'avancer. Vincent se satisfait déjà du fait qu'il n'ait eu encore à affronter ni chausse-trap, ni oubliette, pas même d'embranchement offrant plusieurs directions, ce qui aurait nettement compliqué leur situation. Vincent a beau faire ce qu'il peut pour entretenir la conversation, les signes ne trompent pas. Henri répond de plus en plus évasivement et ses pas se font franchement traînants. Le clou trébuche et demande à nouveau « Où en est le pétrole de la lampe ?» Il n'y en a plus beaucoup. Le réservoir est en fait presque vide et Cavell n'a pas d'autre choix que de préparer son jeune compagnon à ce qui les attend. Nous risquons d'être obligés de continuer dans le noir. Cette perspective déprime immédiatement Henri, qui gémit. On ne ressortira jamais d'ici. Dans 1000 ans, on retrouvera nos squelettes. Ne dramatise pas. Nous avons déjà échappé aux chiens de l'enfer que nous imaginions tout à l'heure. Si la lampe vient à s'éteindre, nous progresserons plus lentement, mais nous avancerons quand même. L'air est respirable. On ne trouve aucune trace de moisissure nulle part. Il y a de bonnes chances pour que ce passage débouche quelque part.
Tu crois que c'est une ancienne carrière ?
Pas sûr. Le couloir est trop étroit pour être celui d'une exploitation et il n'y a aucune trace d'extraction. De plus, à en juger par les marques de taille dans les murs, ceux qui ont creusé ça ont travaillé au burin, par petites touches. Les Romains procédaient comme ça, mais depuis, les techniques ont évolué.
Ce ne serait qu'un très ancien couloir souterrain.
Ça m'en a tout l'air.
Pour aller où ?
La réponse doit se trouver au bout, et je suis tout aussi curieux que toi d'y arriver. Peut-être une issue pour fuir, comme celle que nous avons nous-mêmes construite pour certains clients. Mais il me semble de plus en plus évident que ce travail de titan, associé au mécanisme qui en dissimule l'entrée, ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme. Il faut une sacrée organisation pour bâtir tout ça. Une sacrée bonne raison aussi. Alors que le tunnel remonte dans un virage, tous deux arrivent au pied d'un éboulement. Le plafond s'est effondré, et le volume de terre et de fragments de roche qui en est tombé obstrue presque entièrement le passage. Des racines pendent de la voûte éventrée.
Vincent éclaire l'imposant amas sous différents angles pour prendre la mesure de ses dimensions.
Un piège ? Demande Henri.
Vincent secoue la tête. Plutôt une banale rupture de la structure, un mouvement de terrain ou le temps qui a fait son œuvre. La bonne nouvelle, c'est que la présence de végétation indique que nous nous rapprochons de la surface. La mauvaise, c'est que pour continuer, il va falloir se glisser dans le minuscule goulet là-haut, entre ce qui reste du plafond et le monceau de terre, sans rien faire tomber de plus. Si tu préfères, tu peux patienter là et je me dépêche de vérifier ce qui nous attend de l'autre côté.
Henri réagit vigoureusement.
On ne se sépare pas. Je vais devenir fou si tu me laisses derrière. Je préfère te suivre en enfer que de rester ici tout seul.
Comme tu veux, approuve Vincent. Allons donc ensemble en enfer. Cavel entreprend d'escalader les boulis avec précaution. Pierres et terre roulent sous ses pieds. Enfin, il s'engage en rampant dans le faible espace encore libre. Les racines qui l'ont envahi lui griffent le crâne, lui écorchent le visage. Elles sont si denses qu'il doit se protéger la bouche et les narines de sa main en rampant sur les coudes. Sa lampe passe à peine en hauteur. Vincent est obligé de l'incliner en priant pour qu'elle ne s'étouffe pas. Il déblaie d'une main et se déhanche pour se glisser laborieusement. Gêné par le remblai qui lui pleut dessus à chaque mouvement, il se coule de justesse et prend bien garde de ne rien accrocher. L'instabilité des matériaux encore en suspens est une menace. Un nouvel éboulement pourrait les ensevelir. Vincent renifle. L'air est humide. Alors qu'il progresse avec difficulté, il lui semble sentir un très léger appel d'air sur son visage maculé de terre.
« Tu me suis toujours ?»«
À la poursuite de tes semelles. Je t'en supplie, ne t'arrête pas. Je ne veux pas finir enterré vivant. »
N'ayant pas ménagé sa peine, Vincent débouche enfin de l'autre côté. Poussant un soupir de soulagement, il s'extrait péniblement de l'étranglement, se rétablit et vérifie sa lampe avant d'entamer la descente de l'autre versant du talus. À peine a-t-il posé le pied sur le sol du tunnel qu'il sursaute en sentant quelque chose se faufiler entre ses jambes. Il lâche un juron.
« Qu'est-ce qui t'arrive ?» s'inquiète Henri, qui n'attend qu'une occasion pour paniquer.
« Tout va bien, seulement un rat qui file. » Il souffle et ajoute.
« Figure-toi que je suis heureux de le voir. C'est bon signe. S'il se balade jusque-là, c'est qu'il existe forcément un accès vers l'extérieur. »
Vincent tend la main à son jeune complice, qui s'est dégagé à son tour. Le clou se secoue et commence aussitôt à frotter les traces de terre qui noircissent ses vêtements. Vincent lui agite la lampe sous le nez pour lui signifier que le réservoir est quasiment à sec.
Remettons-nous en chemin sans tarder.
Henri lui emboîte le pas tant bien que mal. Deux virages plus loin, son courage déjà précaire est brusquement réduit à néant. Un mur de meulière leur barre la route. Impossible d'aller plus loin. Ils ont marché des heures et rampé pour finir dans un cul-de-sac. Cette fois, tous deux cèdent à l'abattement.
« Si on s'en sort, peste Vincent, on pourra toujours raconter qu'on a passé la pire nuit de notre vie. »
Henri geint et se laisse tomber à terre. Il ferme les yeux, épuisé. La vue du garçon affaibli redonne un coup de fouet à son chef. Non, il ne peut pas baisser les bras. Il n'abandonnera pas Henri. Levant la lampe pour profiter de ses dernières lueurs, Cavel se met à examiner l'obstacle.
Ces pierres ne semblent pas si anciennes. Je parierais même qu'elles ont été montées voilà quelques années tout au plus. Comme si ce tunnel avait été coupé par une construction plus récente.
Tout à coup, dans un recoin en haut du mur, Vincent tombe nez à nez avec un rat. Il a juste le temps d'apercevoir son museau et ses petits yeux brillants. Chacun fait peur à l'autre, et la bestiole détale dans son trou. Vincent éclate de rire, au point qu'Henri redoute que son aîné n'ait basculé dans la folie.
« Qu'est-ce qui te prend? Il n'y a rien de drôle. »«
Si, ce beau spécimen !»«
Debout, Henri, fait-il en étudiant la faille par laquelle s'est glissé le rongeur.
Notre petit ami nous montre la voie. Je vais avoir besoin de ton aide. »
Il déplie son couteau et commence à attaquer les joints. Au même instant, la lampe faiblit. Quelques secondes plus tard, Elle s'éteint. Définitivement.
Chapitre 51. Les ténèbres. Un hurlement. Henri ne voit rien. Il tourne sur lui-même, complètement affolé. La menace est toute proche. Il la sent. Le garçon veut fuir, mais toutes les portes qu'il ouvre donnent sur des murs. Le voilà pris au piège. La chose ne va pas tarder à le rattraper. Il entend déjà son souffle. Quand il se retourne, elle est sur lui. Sa gueule immense s'ouvre. Henri crie et se réveille en sueur. Un cauchemar, ce n'est qu'un cauchemar. À son chevet, Vincent murmure quelques paroles réconfortantes. Le clou, hagard, les entend à peine. Pour se rassurer, il attrape sa main et la serre fort. Sa respiration reprend peu à peu un rythme normal. Après avoir remonté l'édredon sur ses épaules, Vincent patiente quelques minutes, veillant à ce qu'Henri reste bien couvert. Même si seule sa tête dépasse encore, il grelotte toujours. Vincent pose sa paume sur son front brûlant. La fièvre est là, à n'en pas douter. Depuis leur retour, le gamin ne parvient pas à se réchauffer. Une friction à l'eau chaude et un bol de bouillon avalé près du fourneau n'ont pas mis fin à ses crises de frissons. Il en sera sans doute quitte pour une bonne crève, mais ce n'est pas si grave, surtout en comparaison de ce qu'il risquait encore quelques heures plus tôt. Heureusement, il est désormais en sécurité. Lorsque, au petit matin, les deux compères se sont enfin échappés de leur enfer souterrain, ils sont rentrés ventre à terre, malgré la fatigue, malgré les risques, comme des loups épuisés, incapables du moindre repos avant d'avoir regagné leur tanière. Après avoir gratté des heures dans le noir, décelant pierre après pierre, ils ont fini par ouvrir un passage dans le mur, débouchant dans les égouts. Aussi répugnante fut l'odeur qui leur a sauté au nez, elle avait pour eux le doux parfum de la liberté. Revigorés par la perspective de trouver enfin une issue, il ne leur a pas fallu longtemps, même à tâtons, pour localiser l'échelle de fer conduisant à une bouche et gagner la surface. L'air frais et le familier décor citadin produisirent un effet salvateur. Ils se sont tout à coup sentis comme des évadés se délectant de leur liberté retrouvée. Après des heures à se demander s'ils allaient survivre, l'air du dehors leur a offert l'occasion de se sentir vivants comme jamais auparavant. Ce qui leur paraissait banal la veille a pris soudain des allures extraordinaires. Une rue dans le soleil levant, le passage d'une charrette, le chant d'un coq, les jeux d'une lumière naissante dans le feuillage des arbres. À la première fontaine, Cavel et le clou se sont lavés pour essayer de se débarrasser des boues dégoûtantes et de l'odeur pestilentielle qui leur collait à la peau. Dans le petit matin frais, ils se sont copieusement aspergés d'eau glaciale, au milieu des chevaux laissés là à se désaltérer avant leur labeur. Ils étaient si sales que même les animaux se tenaient à l'écart au point d'avoir l'air de les mépriser. Trempés jusqu'aux os, tremblant de froid, les deux rescapés ont rallié Montmartre aussi vite que le reste de leurs forces le permettait. Une fois rentrés, il fallut expliquer aux autres, inquiets et sur le pied de guerre. Jamais leurs compagnons n'auraient pu imaginer ce qu'ils avaient enduré. Trop heureux de les revoir vivants, ils n'ont pas songé un instant à sermonner Henri parce qu'il avait imprudemment suivi Vincent, ni à reprocher à leur chef de s'être aventuré à la merci de Minguier sans précaution. À présent, le calme est enfin revenu, mais Vincent ne peut se résoudre à quitter le clou. Il semble épuisé. Ses yeux cernés s'accrochent à Vincent. Au pied du lit, celui-ci contemple ce qu'il reste de la lame de son couteau, usée jusqu'au manche. Henri s'en amuse. Il n'est plus bon à rien. À rien du tout, sourit Vincent. Peu importe, j'en achèterai un autre. Puis-je le garder en souvenir ? Vincent le replie et le dépose sur la table de nuit. Il est à toi. Il s'accroupit auprès du clou. Il faut vraiment que tu dormes à présent. Tu dois reprendre des forces. Ne t'inquiète de rien. Nous montons la garde. Alors qu'il s'apprête à le laisser, le clou l'interpelle. Vincent ! Le chef pivote. Les yeux brillants de fièvre, Henri lui déclare d'une voix qui laisse poindre l'émotion. Merci de m'avoir sauvé la vie. Vincent lui fait un clin d'œil. Ne me remercie pas. Je n'aurais pas pu ouvrir ce passage sans ton aide. Si tu n'avais pas été là,
Je serais sans doute mort à l'heure qu'il est.
Tu avais bien raison. La tentative de plus a été la bonne.
Souviens-t'en lorsqu'il t'arrivera de ne plus y croire.
Tu sais, ajoute le garçon tout doucement, n'en parle pas aux autres, mais je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand ils m'ont attrapé, jeté dans ce cachot, et ces affreux hurlements devant, j'ai bien cru que ma dernière heure était venue.
Par bonheur, ce matin, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir.
Vincent, tu as déjà eu l'impression que tu allais mourir ?
Vincent hésite. J'ai déjà vu la mort de près, mais elle n'était pas là pour moi.
On ne se sent plus pareil après, pas vrai ?
Pour sûr. Et maintenant, dors. Henri baisse les paupières et se blottit dans son oreiller. Vincent demeure immobile, pensif, à contempler ses traits enfin apaisés. Le garçon dit vrai. On n'est plus jamais le même après avoir frôlé la mort. Reste à savoir si l'on continue en étant plus fort parce que l'on a survécu, ou plus fragile parce que l'on sait qu'elle finira par revenir. Le clou s'est enfin endormi. Sa main pend, inerte, sur le côté du lit. Vincent la pose délicatement sous l'édredon. Voilà bien longtemps que lui-même n'est plus capable de trouver le sommeil aussi vite. Alors qu'il quitte la chambre, un coup de feu retentit. Il jurerait que cela vient de derrière la maison.